présenté Marina Mielzarek. La malnutrition au Togo, c'est le reportage du jour dans Priorité Santé. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent sur la radio mondiale. Notre reporter Igor Strauss est toujours là. Poursuivons donc cette visite exceptionnelle au nord du Togo, dans la région des savanes, où le taux de malnutrition est le plus élevé du pays. Alors pour ceux qui nous rejoignent, eh bien il faut restituer la scène. Nous sommes dans un centre dédié à la malnutrition, où vous avez fait des rencontres édifiantes, Igor, des mamans confrontées, démunies complètement face à leurs petits qui ne se nourrissent plus, ou certains déjà malades, des bébés, vous en avez vu, on l'a entendu en première partie, qui sont tout malingres ou déprimés, psychiquement, même si leur maman leur donne à manger et sont d'un niveau correct de vie. Alors, retournons donc à Nadjoudi, chez les sœurs, et avec sœur Marguerite et puis le reste de son équipe.
Elle dit que l'enfant a les œdèmes et l'enfant dort tout le temps.
Et combien d'enfants vous avez en tout?
Brebanta. Trois enfants.
Est-ce que vous êtes la seule épouse ou est-ce qu'il y a des co-épouses dans le ménage?
Pobanta. Ils sont trois femmes.
Et combien d'enfants en tout?
Tukulbuta banini. Huit enfants pour toutes les trois femmes.
Et qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre mari?
C'est un cultivateur.
Combien de repas par jour vous faites dans la famille là?
Matin et midi.
Et qu'est-ce que vous mangez alors?
Ça, il y a un coco sengao. Et dès que la pâte, la bouillie le matin.
Est-ce que des fois vous mangez du poisson ou de la viande?
Elle dit que si c'est le petit poisson, oui. Mais la viande, c'est rare.
Et le petit poisson, combien de fois par semaine vous en mangez à peu près?
Elle dit que le jour du marché, elle, la femme, elles achètent le petit poisson venu préparer. Donc, deux fois par semaine, quoi, le poisson.
Et là, c'est une question à vous. Vous pensez que ça suffit pour bien nourrir les enfants?
C'est très insuffisant. Au moins, le petit poisson, si elles arrivaient à préparer tous les jours, là, d'accord. Mais deux fois par semaine, le poisson, c'est faible pour les enfants surtout.
Tout à l'heure, j'ai discuté avec une maman là-bas. Elle a cinq enfants. Son mari a cinq co-épouses. Et elle ne peut pas travailler parce qu'il est vieux, il a mal au dos. Est-ce que vous pensez que la polygamie, c'est un problème quand on parle de malnutrition?
Non, la polygamie est très, très un problème. Un grand problème. Maintenant, les hommes d'ici, là, ils emploient les femmes que pour travailler. Et ils ne font que se promener. Ici, ce n'est que les femmes qui travaillent au champ. Tu vois, il a mal au dos et comment il arrive à avoir jusqu'à cinq femmes, si c'est qu'il est malade. Donc, si tu es malade, tu ne peux pas travailler. Pourquoi endosser les femmes dans la maison?
Mais pourquoi les femmes, elles l'acceptent alors? Pourquoi est-ce qu'elles ne se révoltent pas?
Ça dépend. Il y a d'autres femmes, on les force. Et il y a d'autres même qui arrivent à droguer les femmes pour les prendre. Et il y a d'autres, quand ils viennent, bon, il a un peu d'argent, il essaie, les femmes sont attirées par son argent, il les amène, et après tout, quand l'argent finit, c'est fini. Tout le monde est tombé dans la piège. Tout le monde doit se débrouiller. L'homme devient maintenant, il fout sa tête en l'air, fait que boire pour ébrouiller ses soucis, tout. Et ça, aux femmes maintenant de lutter parce qu'elles ont déjà des enfants avec l'homme. Surtout, on demande toujours à nos mères de mettre les filles surtout à l'école pour pouvoir lutter contre tout ce problème-là.
Voilà sept petits bébés. Après la naissance, la mère est décédée. Et c'est leur coutume, on donne grand-mère les enfants orphelins, orphelines comme ça. Alors, il a elle, que la maman qui veut de décéder, foudroyée par la pluie.
Foudroyée par la pluie?
Oui, elle a été foudroyée par la pluie. Il y a un mois, toujours la mère.
On a donné tout de suite à la grand-mère l'enfant maintenant. Parce que c'est un enfant qui porte malheur pour la famille.
Ah, dans la croyance, ça porte malheur.
Un porte malheur. Comment on dit ça, Marie? Explique un peu le coutume, là.
Si l'enfant meurt, à la tradition, on dit toujours qu'il porte malheur à l'endroit où on l'a envoyé. Tu vois? Donc, il y a d'autres vieilles qui refusent.
De les recevoir enfants. Les enfants
Ils font semblant de prendre, mais ils essaient de ne pas entretenir pour que l'enfant meure. Comme ça, ils sont libres. Mais c'est le cas de cette femme, c'est la grand-mère directe.
Mais elle aussi, nos enfants ont eu du mal. C'est nous-mêmes qui avons lutté de garder l'enfant ça ici, au Crène. Elle ne veut pas. Mais nous avons dit, tu veux l'enfant, tu ne veux pas l'enfant. Mais si l'enfant meurt, c'est à cause de toi. J'ai écrit même en rouge.
Enfant orphelin à garder au Crène.
Oui. Mais elle a accepté quand même, et puis l'enfant est bien maintenant. Chérie. Là. Tu vois. Peut-être elle va aimer même l'enfant après. Parce qu'elle voit le changement de le temps de l'enfant. J'espère qu'elle va aimer l'enfant.
Pour parler de détails pratiques, Igor, ça coûte combien une consultation au centre Crène, au centre de référence malnutrition?
De rééducation et d'éducation nutritionnelle. Alors c'est 900 francs CFA, ça fait un petit peu plus d'un euro. Mais évidemment, si les mamans n'ont pas les moyens, eh bien c'est gratuit.
Alors, on leur apprend quoi en fait? À manger varié, plus varié, à manger, à déconstruire tous leurs préjugés
les aliments. Voilà, le gros problème, Marina, si vous voulez, c'est que on a tendance à penser que bien manger, c'est d'avoir le ventre plein. Eh bien, non, bien manger, c'est varier les aliments, avoir une alimentation équilibrée, des protéines que l'on retrouve dans la viande, le petit poisson, des micronutriments, de la vitamine A. C'est varier les repas et varier les aliments, et c'est ça qu'on leur apprend, et c'est en ça que consiste la prévention auprès des mamans.
Alors, le travail est vraiment dur, hein, et difficile, parce qu'on l'a entendu aussi, enfin, nous venons non, là, juste d'assister à cette visite guidée avec la sœur Marguerite qui vous parle des préjugés, des rumeurs et même sur les petits poissons, sur la viande, etc. Donc c'est vraiment une gageure hein, pour le personnel de santé. Quand vous vous êtes rendu dans un autre établissement, pas très très loin, donc l'hôpital pédiatrique.
Voilà, de Dapaon, la capitale, on pourrait dire, de la province de la région des Savanes.
Et les médecins vous en ont parlé aussi de cette prégnance comme ça, des rumeurs, des on-dit, on va dire.
Ah, ça revient tout le temps, ça c'est obligatoire, j'ai presque envie de dire. Alors effectivement, vous l'avez dit, j'étais à l'hôpital pédiatrique de John Doubé, j'étais avec le médecin Baptiste Chédré, et là j'ai rencontré une maman de 27 ans, elle parle très bien le français, elle a deux enfants, son petit garçon a un an et demi, et il est atteint de marasme, une forme aiguë de malnutrition.
Ça, c'est une salle uniquement que pour les malnutris admis en intensif. Ils sont intensifs.
Avec complications ?
Avec complications surtout. C'est eux qui sont dans la salle ici.
Et là, aujourd'hui, il y a combien d'enfants ici ?
Aujourd'hui, bon, ça fait une vingtaine d'enfants admis pour malnutrition avec complications.
C'est ce que vous recevez d'habitude ou c'est plus par rapport à d'habitude ?
Et ça varie selon les saisons. Actuellement, c'est la période des malnutris parce que tout ce qu'on a comme réserve, on a tout semé.
Parce que c'est la période de soudure,
La période de soudure. Et les parents, on n'a presque rien à manger. Donc, les enfants sont souvent malnutris et en plus avec les complications.
Quels sont les types de complications qui reviennent le plus souvent?
Les anémies, les complications pulmonaires, bon, les infections cutanées, les diarrhées, les gastro-entérites.
Je dis c'est un cas de marasme. On peut voir, maman, que l'enfant a l'aspect d'un vieillard, on appelle l'aspect vieillot, avec donc une forme donc du tissu adipeux. Vous voyez que les os sont saillants au niveau des côtes. Donc ça explique donc un cas donc de malnutrition type donc marasme. Et l'enfant était admis avec complications. Donc l'enfant était transfusé parce qu'il y avait donc une association donc d'anémie grave sur malnutrition sévère avec complications.
Effectivement, on le voit, il est vraiment très très maigre. Hein.
Okay. Oui, l'enfant est maigre.
Il y a tout petit bras.
Moi, c'est Kina Madiatou.
Vous êtes avec votre fils, Aziz ?
Oui, c'est mon fils.
Et depuis combien de temps vous êtes ici à l'hôpital ?
Ça fait 8 jours aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il avait avant de venir ici ?
Il maigrissait seulement, je ne sais pas ce qu'il avait. C'est depuis que son papa est mort que la maladie a débuté. Et puis il est chaque fois malade.
Son papa est mort ?
Oui, ça va faire 2 mois.
Vous pensez qu'il y a un lien entre le fait que le petit ne mange pas et le décès de son papa ?
Bon, je ne sais pas ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous lui donnez à manger ?
Tout ce qu'il demande, je lui donne à manger. Je fais la soupe pour lui, soupe de poisson, de viande, tout. je fais pour lui. Comme il est le frère de son papa, il s'occupe de lui. C'est lui qui m'a fait venir. Il m'a donné l'argent, je suis venue ici. Mais quand je suis venue, il y a du mieux. Aujourd'hui, ça va. On prie Dieu quand même.
Il a pris un peu de poids depuis que vous êtes ici?
Oui, il a pris un peu de poids.
Il a pris combien, vous savez?
Aujourd'hui, il a 6,6 kg. Le jour que je suis venue, il avait 6,05 kg.
Et vous savez combien de temps vous allez rester ici, vous ou pas?
Je ne sais pas. Je veux qu'il gagne la santé d'abord avant de rentrer chez moi. Je vais rester pour qu'il gagne la santé.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup.
Merci. À vous demain.
Docteur, ce petit garçon, Aziz,
oui.
La dame me dit qu'elle a perdu son mari et qu'elle a vu un lien entre l'amaigrissement du petit et la mort de son mari. Est-ce que ça peut jouer, ça?
Ça peut jouer. D'abord, sur le plan affectif, l'enfant est touché en ne voyant plus son papa. Et ça peut lui donner une anorexie. En refusant de manger ou bien ne s'alimenter plus correctement, il peut tomber dans la malnutrition. Donc la mort de papa peut jouer. Sur le plan financier que affectif.
À un an et neuf mois, on peut déjà faire de l'anorexie en raison d'un manque affectif.
Oui, oui. Parce que, bon, s'il connaissait déjà le papa et qu'il ne le voit plus, ça veut dire qu'on ne peut pas exprimer, mais il s'exprime par son manque d'appétit.
Ouais. Apparemment, voilà, la maman est en bonne santé,
elle est
corpulente.
Et l'enfant est maigrichon.
Priorité santé spéciale malnutrition au Togo, et avec ce reportage, cette grande enquête donc de Igor Strauss. Et première pause musicale dans Priorité santé aujourd'hui avec Roger Damaouzan, Wait for me. Cette plongée au cœur des zones reculées du Togo, tout au nord, avec Igor Strauss. Alors après ces rencontres avec des mamans dans ce centre dédié donc au combat contre la malnutrition, eh bien on le voit hein, dans cette grande enquête d'Igor, les rumeurs entourent la nourriture. C'est en fait une multitude de batailles menées en même temps. Et le témoignage suivant nous le confirme. Il s'agit d'Aïssa Mamadou Taïbou qui travaille sur le sujet donc de la malnutrition au sein de l'UNICEF.
Le plaidoyer a commencé avec la diffusion de ces résultats parce que le Togo ne s'attendait pas à avoir un taux de malnutrition global de plus de 14% parce que ça c'est vraiment le seuil d'urgence. Donc ils étaient loin de s'attendre à ça. Au départ, donc, quand les résultats ont été diffusés, c'est une situation d'urgence, donc les partenaires se sont mobilisés, etc. Mais la mise en place au départ n'est pas toujours facile parce que pour ouvrir des crèches, on a besoin de les équiper. Quand je dis équiper, il faut le matériel anthropométrique pour peser, pour toiser les enfants. Une fois qu'on a ce matériel, il faut les médicaments pour la prise en charge. Il faut les aliments thérapeutiques pour la prise en charge. Ces aliments, il faut en faire la situation, il faut en estimer les besoins, il faut les commander à Copenhague, etc. etc. Essayez aussi de faire, et c'est ça qui avait manqué, je pense, au départ, une répartition géographique de centres. Parce qu'au départ, on a ouvert des centres, mais le choix a été fait sur des formations sanitaires qui avaient les capacités. Donc on se retrouvait avec des centres, par exemple, qui étaient à plus de 60 km de là où se trouvaient les maires de Crénam, qui étaient distants de plus de 50 km d'un Crénier. Donc ce n'était pas évident. Mais au fil du temps, on a essayé avec le PAM de voir où est-ce qu'il faut créer d'autres Crénams pour les rapprocher des Créniers, et aussi où est-ce qu'on a la possibilité de mettre en place dans un centre un Crénier en même temps un Crénas, pour faciliter l'accessibilité aux maires.
Aujourd'hui, en 2009, est-ce que vous estimez que le Togo est bien engagé dans la lutte contre la malnutrition? Et selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer?
Dès le moment où il y a l'adhésion, dès le moment où il y a l'appui du ministère, donc nous pensons que c'est déjà un plus. Parce que le problème de lutte contre la malnutrition, ce n'est pas seulement la prise en charge. Nous devons commencer déjà avec la prévention. Et aujourd'hui, je pense que nous et le ministère, nous tendons, et je pense que tout le monde tend vers la prévention, ce qui va nous permettre déjà de réduire des cas de malnutrition et tout, que d'attendre que les enfants soient malnutris pour qu'on les prenne en charge. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et quand nous mettons en place la prévention, on doit assurer la surveillance de la croissance de ces enfants. On doit les faire avec les communautés. Donc nous sommes en train de mettre en place l'approche communauté thérapeutique, donc tous les soins que la communauté peut assurer, pourquoi ne pas le faire? Il faut que les maires comprennent. Parce que le problème qui se passe parfois, c'est que les maires ne comprennent même pas l'importance du suivi de la croissance de l'enfant. Alors donc, par rapport à ça, je me dis que l'accent doit être mis sur la communication. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des groupes vulnérables, notamment les mères enceintes, allaitantes ou les enfants dont elles s'en occupent, et ne pas prendre le temps qu'il faut pour leur expliquer pourquoi on leur fait ou on leur donne tel ou tel service ou pourquoi elles en ont besoin. Je vais vous donner un exemple. Lors d'une supervision, nous avons trouvé un enfant qui était né la veille, mais qui n'avait pas été du tout allaité. Ça faisait plus de 24 heures. On a dit, est-ce que sa mère est malade? Est-ce qu'il y a un problème? Il nous a dit non. Mais dans la culture, ce que cet enfant ne peut être allaité par sa mère, que quand les parents de cette mère, qui étaient je ne sais à plus de combien de kilomètres, c'est seulement quand ils vont arriver, voir leur fille, qu'elle peut mettre cet enfant-là au sein. Vous voyez? Et ça, c'est la culture, c'est comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pour cela que le problème de malnutrition, nous devons le prendre dans sa globalité. Nous ne pouvons pas dire qu'en assurant la sécurité alimentaire, nous assurons la situation nutritionnelle aux enfants. Non, ce n'est pas suffisant. Nous devons combiner l'ensemble, c'est-à-dire le préventif, le curatif, la sécurité alimentaire, mais aussi tous les autres aspects de la survie de l'enfant.
Vous en avez fait vraiment des rencontres, hein? Quel cocktail de visites et de vraiment de voix différentes et on le voit vraiment passionnante sur un sujet sur lequel on croit connaître beaucoup de choses en fait et puis on se rend compte que
et finalement on apprend beaucoup d'autres.
Donc après cette intervenante de l'UNICEF, vous avez rencontré un chef de village. Alors nous sommes où? Quel village vous êtes allé?
Alors on quitte Lomé parce que là avec Aïssa on était à Lomé aussi. Siège de l'UNICEF. On retourne tout au nord dans la région des savanes, dans un village qui s'appelle Dinendjuga, où là, tout à l'heure, on parlait de l'approche communautaire. Donc, j'étais avec des agents de santé communautaire dans un village dont le chef s'appelle Douti Kolané. Et justement, il va nous parler des problèmes de son village.
Bon, le chef de village a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Il remercie les autorités sanitaires de la région et l'infirmier chef de poste de Pognon qui les apporte un appui dans la mobilisation sociale. Donc, il vous souhaite la bienvenue et vous souhaite bon travail dans ce que vous êtes venu faire. Le premier problème, c'est l'enclavement. Du côté sud, il y a un marigot. Du côté ouest, il y a un marigot. Et en saison des pluies, avec la crue des marigots, lorsqu'il y a un malade, ce dernier n'arrive pas à être évacué vers un centre de santé. C'est un problème.
Qu'est-ce que vous pensez de la venue des agents de santé communautaire ici dans le village? Qu'est-ce que ça a amélioré selon vous?
La venue des ASC, agents de santé communautaire, a apporté un soulagement au niveau de son village parce qu'ils prennent en charge le palu simple. Ça fait que le village s'est senti un peu soulagé.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup de problèmes de malnutrition dans le village? Et dans votre mémoire d'ancien, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que les problèmes de malnutrition sont apparus?
Par le passé, il y avait des malnutris. Mais au niveau village, ils ne pensaient pas que la malnutrition était une maladie. Pour eux, c'était nos mamans, les sorcières, qui mangeaient leurs enfants. Mais c'est avec l'arrivée des AIC qu'ils se sont rendus compte que la malnutrition est une maladie. Donc, par le passé, ils ont eu à enterrer beaucoup d'enfants qui sont morts de la malnutrition.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette croyance? Parce que je ne connais pas cette tradition, cette croyance, moi.
Bon, par rapport à cette croyance, pour certains, quand l'enfant présente des signes de malnutrition, le villageois se dit que ah, ça c'est les sorcières qui sont en train de manger cet enfant. Parce que quand l'enfant manifeste la maladie et en gémissant, souvent prononce le nom d'une vieille femme. Et pour eux, c'est cette vieille femme qui est en train de vouloir manger l'enfant. C'est pourquoi l'enfant, en faisant des efforts pour se défendre, prononce son nom.
Et depuis combien de temps vous savez que la malnutrition est une maladie et que ce n'est pas une sorcière qui mange les enfants?
C'est avec l'arrivée de la médecine qu'ils ont su que la malnutrition est une maladie. Il y a quelques années, quand les femmes amenaient les enfants au niveau des centres de santé de Pognon et que l'infirmier leur faisait le dépistage, on leur donnait comme réponse que leur enfant était malnutri. C'est à partir de ce moment qu'ils ont su que la malnutrition est une maladie et non attribuer le sort de la malnutrition aux sorcières.
Igor, en auditrice de RFI et en auditrice curieuse, je me demande aussi comment ça se passe quand on est envoyé par Priorité Santé, par RFI, sur le terrain, comme ça, au Togo, sur cette enquête concernant la malnutrition. Au jour le jour, c'est comment le travail? Vous quittiez l'hôtel, vous étiez dans le même hôtel que les enquêteurs avec lesquels vous êtes allé sur le terrain?
Alors, non, on les retrouvait sur place, on était dans l'or, on était une petite équipe, donc un représentant de l'UNICEF, un chauffeur et puis moi-même. Une équipe très mobile, on allait dans les visages très reculés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut pouvoir passer, des fois on passe plusieurs rivières pour arriver dans certains villages, donc il faut un bon 4x4. Et puis ensuite, c'est une question de rencontre, de gens, s'intéresser à eux et essayer de comprendre comment ils vivent au jour le jour. C'est vraiment ça le fond de l'enquête.
On peut entendre un petit extrait de cette rencontre. Vous nous avez rapporté ça dans vos bagages ou pas?
Alors moi, donc, quand j'ai suivi, bien sûr, j'ai suivi cette enquête SMART, les enquêteurs, et je vous propose de les écouter. On est dans un tout petit village dans la région des savanes, tout au nord.
La question suivante est relative à la nature du toit du logement. Alors, nous ne demandons pas, nous observons nous-mêmes et nous mettons la réponse.
Donc là, on constate que c'est une petite case avec un toit en paille.
En paille.
Et deux bâtiments en tôle.
Donc.
Mais qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir un toit en paille ou en tôle?
C'est une information, c'est la richesse du ménage.
C'est le toit en tôle?
Ça prouve qu'il y a une petite aisance dans le ménage.
Et donc là, c'est bon?
Pour ces ménages, nous avons fini.
Et donc à chaque ménage, j'allais réitérer cette opération?
Cette opération jusqu'à la fin. D'accord. Voilà, donc nous avons 18 ménages que nous allons parcourir au cours de la journée. Mmh. Voilà, c'est parti.
Igor, pour revenir à cette enquête donc évoquée en tout début d'émission avec ces enquêteurs, eh bien, nous aurons les résultats, nous les attendons dans quelques jours, en août. Et Claire Hédon vous ouvrira son micro le 6 août prochain. Notez déjà cela dans vos agendas, chers auditeurs. Merci à vous, Igor Strauss, donc pour ce reportage. Priorité santé, c'est finalement eh bien fini. Merci infiniment donc Igor Strauss de nous avoir rapporté ce reportage passionnant avec toutes ces rencontres. Un grand merci également à toute l'équipe de Priorité Santé. Tout d'abord, Arès Siradag pour la réalisation de cette émission. Merci également à Sabine de Rosière, à Juliette Gerbrandt, également à Claudine Larcher. Et merci enfin à notre stagiaire Anissa. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Curie et Charlie Fourcade. Demain, dans Priorité Santé, les cellules souches, les espoirs, les acquis, mais aussi les craintes. Nous attendons vos questions. Bonne journée.